RFI, il est 4h30 en temps universel, 7h30 à Antananarivo. Le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec vous, Sébastien Duhamel. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Et l'heure du bilan tout d'abord après le voyage d'Emmanuel Macron à Madagascar.
Visite refermée après deux jours sur place avec une nouvelle annonce sur la mise en place d'une commission mixte d'historiens pour faire la lumière sur les heures les plus sombres de la colonisation française. Pas d'excuses directes et officielles ici, mais plutôt un appel au pardon des Malgaches avec ce travail de mémoire. Paris qui défend à nouveau la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Mise au point du président français, justement, interviewé par nos confrères de TV5 Monde à l'occasion de ce déplacement. À l'heure où l'ONG Médecins Sans Frontières dénonce pour sa part la mort, encore une fois, d'un de ses employés tué par balle sur le terrain à Massissi Centre, le troisième employé de MSF ainsi tué depuis le début de l'année au Nord Kivu. Plus courte que prévu, mais historique tout de même pour lui, le président ukrainien a été reçu hier en Afrique du Sud. Première visite sur le continent pour Volodymyr Zelensky, qui plaide en faveur de la paix et du rôle ici de Pretoria. Une modernisation qui inquiète les syndicats comoriens. L'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni passera bientôt sous pavillon émirati. Partenariat avec l'État comorien, mais 500 licenciements sont annoncés dans l'opération. Après le journal, on remontera très loin en arrière sur RFI. On ira marcher dans les traces des hommes préhistoriques au Gabon. On débutera là-bas une série de trois reportages plongés à 400 000 ans dans le passé. Un hommage au pape François, dont les obsèques sont attendues demain avec notre invité, le Sénégalais Abdoulaye Batili, qui a rencontré le souverain pontife et se souvient d'un humaniste, vous l'entendrez. L'actu sport est également au programme, comme tous les jours bien sûr, soyez les bienvenus sur RFI. Plusieurs dossiers ont donc été abordés hier à Madagascar à l'occasion du second jour de la visite du président français. Emmanuel Macron a notamment participé au sommet de la Commission de l'Océan Indien. Il a pu plaider en faveur d'une intégration de Mayotte au sein de l'organisation face au président comorien Azali Assoumani, alors que Moroni revendique toujours ce territoire. Autre dossier évoqué par Emmanuel Macron à Antananarivo, la question mémorielle sur laquelle il était très attendu. Sa visite aurait d'ailleurs dû s'achever sur la restitution de crânes issus du peuple Sakalav, dont celui du roi Toer. Mais celle-ci a finalement été reportée au mois d'août prochain. Le président français a cependant annoncé, je vous le disais, la mise en place d'une commission mixte à l'image de celle d'Haïti ou du Cameroun récemment pour éclaircir et documenter les pages sombres de l'histoire coloniale dans l'espoir de refermer cette plaie. Reportage Sarah Teto.
C'est pour moi très émouvant d'être avec la délégation française ici devant vous dans ce palais. J'espère retirer cette épine que vous évoquiez.
C'est dans l'enceinte du Rouvre, le palais royal qui domine la capitale, qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux descendants du roi Sakalav, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897, au sujet de la restitution prochaine des restes humains réclamés depuis deux décennies.
Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec ça? D'abord, je crois permettre le deuil et permettre que des vies qui avaient été séparées puissent retrouver leur place. Ça ne répare pas les choses. Il n'y a que vous qui pourrez faire ce chemin, qui est aussi un chemin de pardon, qui est éminemment intime. Mais nous en créons les conditions.
Créer les conditions aussi pour que la vérité sur les répressions sanglantes commises lors de la colonisation émerge enfin. Hier, juste avant son départ, le président a alors fait une annonce attendue.
Nous avons décidé avec le président Radjoel ce matin d'installer une commission mixte franco-malgache d'historiens autour de 1947 et des guerres de décolonisation et des atrocités qui ont été commises à cette époque, qui reste encore une plaie très forte dans l'histoire, évidemment, de Madagascar, mais qui est aussi un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir.
Une décision saluée hier soir par les historiens malgaches. Ces derniers espèrent enfin accéder aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Le président français qui a donc refermé sa tournée dans l'océan Indien. Après Mayotte, La Réunion et Madagascar, donc une dernière étape aurait normalement dû l'emmener aujourd'hui à Maurice. Mais je vous rappelle que cette étape a été annulée en raison des obsèques du pape François prévues demain à Rome. Le président français Emmanuel Macron, qui a par ailleurs livré une interview à nos confrères de TV5 Monde à l'occasion de cette tournée. Il a été interpellé notamment sur la question de la guerre dans l'Est de la RDC et sur les accusations formulées contre Paris, qui entretiendrait des relations ambiguës avec le Rwanda. Et le président français a répondu, je vous propose de l'écouter.
La France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda, après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport Duclert, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté, l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que des étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée.
Emmanuel Macron, au micro de nos confrères de TV5 Monde, qui plaide également pour une solution politique dans l'est de la RDC. Alors que sur le terrain, l'ONG Médecins Sans Frontières lance une nouvelle alerte. Elle dénonce la mort d'un de ses collaborateurs, tué par balle à son domicile dans la soirée du 18 avril. Infirmier à l'hôpital général de référence de Massissi Centre, c'est le deuxième employé de MSF ainsi abattu en moins de deux mois dans la localité. C'est aussi le troisième employé tué par balle depuis le début de l'année au Nord Kivu. Ces drames sont inadmissibles et ils ne doivent pas se reproduire, s'exclame Emmanuel Lampart, responsable de MSF en RDC. Il revient pour nous sur ces événements.
Vendredi passé, à sa sortie de l'hôpital général de référence à Massissi, notre collègue, collaborateur terrain, infirmier à cet hôpital, a été tué, assassiné par balle à son domicile par des hommes en uniforme. Cela témoigne en effet d'une dégradation générale de la situation sécuritaire. Beaucoup est mis en avant ce qui se passe sur les lignes de front où lorsqu'il y a les échanges, les opérations militaires, mais une dégradation sécuritaire est de fait constatée aussi très loin des lignes de front, dans les zones dites sous contrôle. Voici encore une fois un fait qui témoigne de cette dégradation et de la non-protection des civils et du non-respect de la protection de la mission médicale de son personnel et des structures médicales.
Emmanuel Lampart, responsable de Médecins Sans Frontières en RDC. Un cessez-le-feu présenté en Centrafrique après que deux groupes rebelles très actifs ont décidé de déposer les armes et de réintégrer l'accord de paix de 2019. Il s'agit de l'UPC, de Ali Darassa et les 3R de Sendebobo. L'accord a été signé avec le gouvernement le 19 avril. Une réunion de présentation a rassemblé ces différentes parties hier à Bangui. Une visite écourtée en raison des frappes russes sur Kiev, parmi les plus intenses constatées depuis le début de la guerre. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky était tout de même en Afrique du Sud hier pour discuter notamment avec son homologue Cyril Ramaphosa, à Pretoria, proche de Moscou, mais qui cultive la position dite non alignée et qui propose ses services de médiation. L'Afrique du Sud appelé à jouer un rôle important, en effet, selon le président ukrainien lui-même. C'est en substance ce que Volodymyr Zelensky a affirmé à la presse avant de reprendre l'avion.
C'est une rencontre historique, première visite officielle du président ukrainien dans un pays d'Afrique, illustration d'une volonté de se rapprocher du continent.
Poutine n'apprécie pas la présence de l'Ukraine en Afrique. La Russie veut une présence exclusive, mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires sur le continent contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel et à arrêter la guerre.
Et en tant que pays non aligné, l'Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d'être un pays médiateur. Rien que cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a aussi échangé au téléphone cette fois avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump.
L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et le dialogue sont plus puissants que n'importe quelle arme.
Volodymyr Zelensky a dû écourter sa visite à Pretoria pour rentrer en urgence à Kiev après l'une des plus grandes offensives russes sur la capitale ukrainienne. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Sur la scène politique de Tanzanie, le Chadema, le principal parti d'opposition, dénonce l'arrestation de 13 de ses membres et la dispersion violente de ses soutiens hier près du tribunal de Dar es Salaam, là où devait comparaître le chef du mouvement Tundu Lissu, inculpé pour trahison. Le président du parti risque la peine de mort pour ce motif, alors que sa formation politique va être écartée des prochaines élections d'octobre, faute d'avoir signé un nouveau code de conduite électorale auquel la Chadema s'oppose. Des soutiens du parti dénoncent des pratiques jugées autoritaires du gouvernement de Samia Suluhu Hassan. Un partenariat qui crée des turbulences aux Comores. Sur place, en effet, l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni passera sous pavillon émirati dès le 1er mai. Cela via une co-entreprise bâtie entre l'État comorien et Terminals Holding pour une durée de 30 ans. Les autorités promettent ici la modernisation de l'infrastructure, mais de son côté, la Confédération des travailleurs comoriens s'inquiète du licenciement de 500 employés avec des préavis allant de 1 à 4 mois. À Moroni, correspondance d'Abdallah Zembaba.
L'État annonce une transformation d'ampleur, nouvelle aérogare, réfection de la piste et création d'une bretelle pour fluidifier le trafic. Objectif affiché, moderniser, agrandir et professionnaliser. Mais cette ambition a un coût humain. Nour El Fattah Azali, secrétaire général du gouvernement, assure néanmoins que ces personnes seront indemnisées. Le coût total se situe entre 3 à 4 milliards de francs comoriens.
Chez nous, on a 1 million de passagers annuels.
Madagascar a 1 million de passagers annuels pour 270 employés. Aux Comores, nous avons 1000 employés pour 200 000 passagers annuels. Il n'y a pas d'autre choix que ces licenciements économiques. Ces gens auront leurs droits avant leur départ.
Ce plan d'indemnisation ne rassure pas les syndicats. Ibrahim Omar, secrétaire général de la CTC, pointe le flou du projet.
Que ce soit licenciement ou bien recrutement, il y a des procédures à suivre. Il y a des cas charges à respecter. On ne connaît pas, on ne sait pas vraiment quel est le protocole, quel est le cahier de charge, quels sont les passifs et les actifs qui seront pris en charge par l'État ou bien par celui qui achète vraiment l'entreprise. Ça, c'est notre inquiétude.
Autre point d'inquiétude, l'opacité du contrat et les contreparties toujours inconnues, cédées par les Comores à la société Emirati. L'État affirme toutefois garder une minorité de blocage pour peser sur les décisions majeures. Abdallah Zembaba, Moroni. RFI.
Moroni, où il est 7h, passé de 42 minutes, 6h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Restez avec nous, bien sûr, le début de RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem dans un peu plus de 13 minutes. Mais d'abord, on va remonter le temps, nous, sur RFI, loin, très loin en arrière, avec le début d'une série de reportages sur les traces des hommes préhistoriques au Gabon. Parmi les hommages nombreux au pape François, dont les obsèques sont attendues demain à Rome, notre invité ce matin, Abdoulaye Batili, envoyé spécial du président du Sénégal auprès des pays de l'AES, il a rencontré le pape François lorsqu'il travaillait pour l'ONU il y a 10 ans en Centrafrique et il nous racontera comment le chef de l'Église catholique a rapproché les religions et œuvré à résoudre sur place la crise politique. 357 milliards de dollars échangés l'an passé en Afrique de l'Ouest grâce au paiement mobile, le mobile money devenu quasi incontournable. Ce sera le sujet de notre rendez-vous avec l'économie. La parlotte de Charlotte qui nous parlera, elle, d'un nouveau genre de trafic après le trafic d'influence. C'est le trafic d'influenceurs. Mais d'abord, c'est tout à fait légal et c'est même recommandé. On passe au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Sébastien.
Et on commence avec le prix Marc-Vivien Fauet 2025, bien sûr le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1. Chaque jour jusqu'au 5 mai, RFI présente les 12 nommés.
Hier c'était Yaya Fofana, le gardien du SCO d'Angers. Aujourd'hui, honneur à l'un de ses coéquipiers, le milieu de terrain et capitaine angevin, Imad Abdelli, l'Algérien qui monte en puissance au fil des saisons. Salut Diouf.
De retour en Ligue 1 cette saison après avoir vécu la relégation il y a 2 ans, Imad Abdelli enchaîne les belles performances sous le maillot angevin. En 28 matchs de championnat, le capitaine du SCO a marqué 6 buts. Il est donc logique de le retrouver parmi les 12 finalistes du prix Fouet, selon le consultant de Radio Foot, Nabil Djellit.
C'est un joueur qui est assez intéressant, qui a des qualités techniques au-dessus de la moyenne, qui est un meneur de jeu qui peut être un meneur de jeu reculé.
Selon lui, il n'y a pas que les qualités techniques, il y a aussi l'aspect psychologique.
Sa force, c'est que c'est un patron, c'est un leader positif, c'est je pense le premier joueur qui est coaché par son entraîneur du jeu. Il y a presque un danger avec et sans Abdelli.
Des prestations loin d'être surprenantes pour Oswald Tancho, celui qui l'a lancé dans le monde professionnel au Havre, sa ville d'origine. Mais d'après son ex-entraîneur, il n'a pas mis toutes les chances de son côté à ses débuts.
Et je pense qu'il avait peut-être pas forcément non plus conscience de toutes ses qualités et il vivait pas comme un sportif de haut niveau. Il jouait au foot, quoi. Il s'amusait. Voilà, il s'amusait et ça lui suffisait pour être bon, mais ça lui suffisait pas pour être très bon et tout casser aussitôt. Mais c'était une question de temps et moi en tout cas, j'ai toujours pensé qu'Imad aurait ces réponses-là et trouverait sa voie en quittant le Havre parce que il allait enfin devenir un vrai professionnel parce qu'il allait avoir moins de tentations.
Plusieurs grands clubs français s'intéressent à lui. Une opportunité pour Abdelli de, pourquoi pas, découvrir la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Salut Diouf, les trois finalistes du prix Marc-Vivien Fauré qui seront révélés le lundi 5 mai dans Radio Foot International. Le nom du lauréat et successeur de Pierre-Emerick Aubameyang sera lui connu le lundi 12 mai.
On a hâte, bien sûr, on sera au rendez-vous. En Afrique, en attendant, Antoine, la Ligue des Champions dispute ses demi-finales retour aujourd'hui.
Le Caire, centre du foot africain avec le Pyramids FC face au Orlando Pirates et le tenant du titre, Al Ahly, qui affronte d'autres Sud-Africains, ceux du Mamelodi Sundowns. Après le nul 0-0 du match aller, le gardien et capitaine égyptien Mohamed El Shenawy a un objectif, faire rentrer son équipe déjà 12 fois championne d'Afrique, record absolu, encore plus dans la légende.
Bien sûr, nous espérons remporter la Ligue des champions africaine pour la troisième fois de suite et réaliser un grand exploit. Nous avons déjà atteint 5 finales consécutives, c'est énorme, ça n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de cette compétition. Notre unique objectif est d'atteindre la 6e, nous sommes confiants, toute notre attention et notre concentration sont portées sur cette demi-finale.
Mohamed El Shenawy avec Martin Dumas-Primbo, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, coup d'envoi 16h temps universel, Pyramids Orlando Pirates à 18h TU.
On termine avec le tennis et le retour d'Ontz Jabeur sur les courts.
Absente depuis sa blessure à Miami en mars, la Tunisienne entre en lice au deuxième tour du tournoi de Madrid. La Tunisienne, 27e mondiale, qui a gagné sur la terre battue madrilène en 2022, elle affronte la Japonaise Moyuka Uchijima.
Et on suivra ça, bien sûr, sur RFI. Merci beaucoup Antoine Grenier, on vous retrouve tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité.
Sébastien Duhamel.
4h46 en temps universel, on jette un coup d'œil sur l'actualité de ce vendredi 25 avril 2025 et cette escalade entre l'Inde et le Pakistan. Les autorités des deux puissances nucléaires annoncent que les ressortissants de leurs voisins et rivales sont priés de quitter rapidement leur territoire respectif. Une montée des tensions déclenchée par l'attentat qui a coûté la vie mardi à 26 personnes au Cachemire indien. Attentat dont New Delhi impute la responsabilité à Islamabad, le Pakistan lui dément. Sergueï Lavrov déclare que la Russie est prête à conclure un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump parle, lui, d'un accord. Nous sommes prêts à conclure cet accord, mais certains éléments spécifiques doivent encore être peaufinés, affirme le chef de la diplomatie russe dans un entretien à la chaîne américaine CBS. Et après les frappes de missiles russes contre Kiev, qui a fait au moins 12 morts dans la nuit de mercredi à jeudi, le président américain exhorte Vladimir Poutine à cesser de bombarder l'Ukraine. Pour l'heure, on reste dans le studio 32 de la Radio du Monde pour remonter le fil de l'histoire. On marche dans les traces de nos ancêtres. On débute ce matin une série de reportages qui vous propose une plongée dans la préhistoire au Gabon. Notre premier épisode nous emmène dans le parc national de l'Opéokanda, le plus ancien parc gabonais, célèbre pour sa faune et sa flore, mais aussi et peut-être surtout pour son patrimoine humain. C'est lui qui lui a permis à ce parc de rejoindre le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. On peut y trouver des preuves de vie humaine vieilles de plus de 400 000 ans, dans ce qui semblait être une voie de passage importante pour les Gabonais de la préhistoire. François Mazet a ainsi suivi leurs traces pour nous en compagnie des agents de l'Agence nationale des parcs naturels.
Nous sommes sur le site de l'OP2 qui est daté de 9000 à 3000 ans avant Jésus.
Entre savane et forêt, Prosper Prost Tutumba est comme chez lui sur le plateau qu'il nous fait visiter. Au pied du conservateur adjoint en charge du patrimoine et du tourisme, de multiples pierres dont certaines ont des formes caractéristiques.
Il s'agit d'un atelier de taille. C'était une usine préhistorique pour fabriquer des outils en pierre. Donc nous supposons que dans le bosquet derrière nous, qui est là-bas, que ça aurait dû être là, le village. Il n'habite pas là, mais il s'installe là juste pour fabriquer ses outils et les ramener au village. Et parfois, on peut trouver des préformes, des nucléus qu'il a commencé à tailler. Et voyez un peu comment, en regardant au sol par hasard, nous avons pris un pic. Cet enlèvement, comme ça, pointu, eh bien, ça sert à la chasse. C'est surtout pour désarticuler les animaux qui ont été pris en chasse. Il garde ce bout pointu et il va viser les parties des articulations qui sont fragiles pour séparer les membres.
L'étude en cours d'une fosse dépotoir récemment découverte sur le site permettra de mieux comprendre le régime alimentaire et les méthodes de cuisine de ces chasseurs-cueilleurs. Plus loin, surplombant l'Ogoué, le superbe site de Congo Mbumba 7, sur les roches, des cercles frappés au burin comme une carte datée de l'âge du fer il y a 2000 ans.
De ces cercles, c'est des taches des chaînes. Tout ce côté gauche semble être antérieur et le côté droit a été ajouté par d'autres populations qui sont arrivées beaucoup plus tard. Les métallurgistes fabriquaient leur matériel transformer le minerai ici sur place. Alors ce trajet migratoire semble montrer un chemin. Un chemin où le premier groupe arrive, il laisse un signe pour dire nous sommes passés par là, voici nous avons occupé. Peut-être que le nombre de cercles va donner la taille de la population qui a été là. Ou alors ce sont des étapes franchies. Mais en considérant ici comme une étape majeure.
Ces gravures rupestres n'ont pas livré tous leurs secrets, mais sont menacées par l'érosion et l'activité humaine. Le parc national compte au moins 150 sites d'intérêt archéologique.
C'est pour ça qu'on dit l'OP, c'est un musée à ciel ouvert. Parce que partout, on trouve des pierres taillées, on trouve des restes de poterie. Les gens ont habité partout ici.
Un potentiel qu'aimeraient explorer les équipes de conservation du parc, avec davantage de moyens humains et techniques pour approfondir les connaissances sur le Gabon préhistorique. François Mazet, de retour du parc national de l'OP au Kanda, RFI.
Le premier épisode de notre série de reportages dans les traces des hommes préhistoriques au Gabon. Demain, le second volet nous emmènera à l'écomusée de l'OP. Mais pour l'instant, les hommages qui continuent d'affluer à la veille des obsèques du pape François, demain à Rome, le chef de l'église catholique qui est décédé ce lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Et parmi les nombreux hommages, une personnalité musulmane salue ce matin sa mémoire sur RFI. Notre invité, Abdoulaye Batili, l'envoyé spécial du président du Sénégal auprès du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il a justement rencontré le pape François il y a 10 ans en Centrafrique lorsqu'il était représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale. Et Abdoulaye Batili en garde un souvenir impérissable.
Bien, le pape François n'a pas été que le chef de l'église catholique. En Afrique, il a joué un rôle très important dans certains conflits. J'ai été témoin de l'un en particulier. En 2015, comme vous le savez, il a visité la République centrafricaine. Et le pape ne s'est pas simplement occupé de sa mission pastorale. Il a tenu à aller même jusqu'à la mosquée de Bangui, dans le quartier PK5, qui regroupait beaucoup de musulmans. Et il est resté avec nous à la mosquée. Il s'est entretenu avec les chefs religieux musulmans, avec tous les acteurs de Centrafrique. Et il faut dire que c'est ce passage du pape qui nous a permis vraiment de donner une accélération au processus politique en Centrafrique qui a abouti pour la première fois dans l'histoire de Centrafrique à l'organisation d'élections libres et transparentes. Et bien entendu, je suis navré que cette œuvre du souverain pontife n'ait pas été suivie. Quand je vois ce qui se passe, les tentatives de troisième mandat, source encore d'instabilité pour ce pays.
Donc ce que vous avez vu à Bangui, c'est pas seulement un pape, c'est aussi un homme avec ses qualités.
Il a une vision œcuménique de l'humanité. Le pape François est un humaniste. Et malheureusement, quand on voit les tourments du monde actuel, au moment où il quitte cette terre, il y a de quoi vraiment le regretter profondément.
Le Sénégalais Abdoulaye Batili, invité de Christophe Boisbouvier, entretien à retrouver plus en longueur sur notre antenne vers 7h45 heure de Paris. En attendant, il est 6h53 ici et on a rendez-vous avec l'économie du continent. Un rendez-vous consacré ce matin à un moyen de paiement devenu incontournable aujourd'hui. Adopté en tout cas par une large partie des populations d'Afrique de l'Ouest, on parle du paiement mobile, le mobile money dans la langue de Shakespeare. 357 milliards de dollars échangés dans la sous-région l'an passé selon la GSMA, l'organisation mondiale qui rassemble tout l'écosystème de la téléphonie mobile. Et ce chiffre est en hausse constante, c'est bien simple, en 4 ans, le nombre de comptes mobile money a doublé pour atteindre aujourd'hui les 485 millions. Dossier Afrique Éco signé Alexis Bédu.
Les opérateurs ont investi dans le paiement mobile, convaincus que les appels vocaux ne suffisent plus pour faire gonfler leur chiffre d'affaires. Le paiement mobile et ses QR codes se sont répandus comme une traînée de poudre dans les commerces, les taxis, des services financiers accessibles à tout le monde. Pour les particuliers comme les entreprises qui n'ont pas de compte en banque, le paiement mobile change la donne.
Le mobile money est en Afrique de l'Ouest. Est tout simplement en train de tenir ses promesses et en train de rattraper son retard.
Arnold Nyama est en charge du développement business en Afrique francophone chez Tunes, une fintech singapourienne.
Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, etc. Le taux de bancarisation, quand on remonte en arrière, 15 ans en arrière, il était en dessous de 15%. Et grâce aujourd'hui à l'adoption du mobile money, on se retrouve à 71% dans l'UEMOA. Des personnes, des individus et même des entreprises aujourd'hui arrivent en fait à non seulement développer le taux d'inclusion financière, mais à développer des usages.
L'autre immense accélérateur, c'est l'arrivée d'acteurs comme l'américain Wave, spécialiste du paiement mobile. Avec ses 1% de commission et son application intuitive, il a su conquérir les marchés. 21 millions de comptes actifs en Côte d'Ivoire, par exemple.
Wave qui a cassé les prix, qui s'est engagé dans une guerre tarifaire, qui aujourd'hui porte ses fruits. Ça a boosté le paiement marchand non seulement par les coûts qui ont été réduits, mais également par la simplicité d'usage. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont en train d'aller vers ce modèle, en fait, la simplification et de s'aligner également sur les prix.
L'enjeu désormais se trouve du côté de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, un projet visant à interconnecter tous les portefeuilles de monnaie électronique, quel que soit l'opérateur est en cours. Mathias Leopoldi est le cofondateur de Julaya, start-up spécialisée dans la finance, présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo.
Aujourd'hui, les comptes, comme je disais, sont un peu en vase clos. Donc, quand vous avez un compte Orange Money, vous pouvez pas envoyer sur un compte Wave. Donc, aujourd'hui, ça freine l'usage. Beaucoup de gens ont des multi-comptes même. Et vous voyez, les gens font « Ah, tu veux de l'argent sur Orange ? Attends, j'en ai que sur Wave, alors il faut que j'aille retirer et puis je te le mets sur Orange, etc. » Donc, ça ralentit énormément les transactions. Et donc, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle propose un système technique central où tous les acteurs viennent se connecter. Ça unifie le cadre parce qu'aujourd'hui, chacun fait un peu ses règles.
Une interopérabilité du paiement mobile dont la phase de test a débuté en août dernier et à laquelle participent 90 institutions financières de la sous-région.
Alexis Bédu pour Afrique Éco. Allez, avant de retrouver Julien Coquel-Rohem et RFI Matin, on retrouve Charlotte Ntamak et son humour. Charlotte, vous nous dites ce matin que pour tirer profit d'une situation, il y a certains qui se livrent au trafic d'influence, mais d'autres, sur la toile, utilisent plutôt le trafic d'influenceurs ou d'influenceuses.
Oui, on connaissait jusqu'ici le trafic d'influence, mais depuis l'avènement des réseaux sociaux et des influents d'Internet, on assiste désormais à des trafics d'influenceuses et même d'influenceurs. Dans le trafic d'influence, l'autorité abuse de son pouvoir. Je te dis de me suivre au poste, tu me demandes le mandat d'arrêt. Ah bon, hein? Nous sommes dans un pays de droit, hein? Je vais donc te montrer que le pays s'y nous appartient. Dans le trafic d'influenceurs, on abuse de la liberté de parler de tout et de rien à temps et à contre-temps pour influencer les influençables. Mais lovers, ceux qui vous disent que le travail paye ne vous disent pas quel travail paye le plus. C'est le love qui paye bien, mes lovers. Pourquoi souffrir sous le soleil et la pluie alors que la nature nous a doté de tout ce qu'il faut pour être riche? Aujourd'hui alors, je vais vous montrer le sac à main de 25 millions qu'on vient de m'offrir grâce au vrai travail, mes lovers. Dans le trafic d'influence, on compte sur ces milliers de relations ou les millions perçus pour exercer son influence. Et dans le trafic d'influenceuses, on compte sur les milliers de vues et les millions d'abonnés. Plus le nombre de suiveurs est dense, plus l'influence est intense sur ces influencées, victimes consentantes du trafic d'influenceuses. Mais Loulou, je vous prends à témoin. Vous-même, vous avez suivi comment elle m'a traité de ce que je ne peux pas prononcer ici, sinon Facebook va me bloquer. En attendant mon direct de ce soir, je vous invite massivement à signaler son compte. Le trafic est permanent entre influenceuses qui n'arrêtent pas de s'influencer. Cache-toi bien derrière ton clavier pour m'insulter. Le jour où je te croise, si tu es sage, change seulement de route. Tu peux me faire quoi? Je te préviens que j'ai tes vidéos. Oui, madame, j'ai tes nudes. Ose seulement répondre à mon commentaire si je balance tout ici. C'est tendu sur le virtuel, mais dans le réel, on se rend bien vite compte qu'il ne s'agit que d'un simple trafic d'influenceuses. Tu as dit que si je mets les pieds ici, tu vas m'enfermer, non? Me voici alors, tu es où? Tu attendais seulement que je vienne au pays pour fuir te cacher à Paris? Il en existe, c'est vrai, qui ont une influence positive sur les internautes. Mais le trafic d'influenceuses et influenceurs, tout comme le trafic d'influence et tout autre trafic, a un côté illicite. Pardon, laisse-nous ça. Elle vend quelle perruque? C'est avec son institut de beauté qu'elle a ramassé tout l'argent qu'elle exhibe sur Internet, là. Nous tous, on sait ce qu'elle passe souvent traficoter à Dubaï. Comme quoi, le trafic d'influenceuses cache très souvent une influence de trafic. À vendredi.
À vendredi prochain, Charlotte Ntamak. Merci à Pauline Berthélémy qui a réalisé cet Afrique Matin. Pierre Pinto à la rédaction en chef. Et on passe un salut particulier ce matin à Youssouf qui nous écoute de Massakori dans le nord du Tchad. Il nous a écrit sur l'adresse africematin@rfi.fr. Restez avec nous.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
transmettre la mémoire de la guerre d'Algérie, 70 ans après le début du conflit, malgré le silence des appelés qui perdurent. Deux sœurs, Laurence et Claire Ponty, publient un témoignage rare, le journal de leur père, soldat en Algérie en 1960.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.